Alors aujourd'hui, à l'émission Rêver pour moi, je vais recevoir Régine Robin. Régine Robin, je suis très contente de vous avoir ici parce que vous êtes une romancière, une essayiste très importante pour moi. Et votre rapport au rêve, me semble-t-il, est particulièrement intéressant. Il y en a certains échos parfois même dans vos œuvres. Alors je vais vous poser une question très simple. Quel est votre rapport au rêve en général?
Alors en général, d'abord, je suis ravie d'être avec vous ici. Et mon rapport au rêve en général, je crois qu'il est un peu celui de tout le monde au départ, à savoir que j'ai le plus grand mal à retenir mes rêves et que durant le début d'une longue psychanalyse, j'étais avec un petit carnet quasiment sous l'oreiller et j'essayais de noter en tous les cas les dernières images du rêve ou des éléments de récit avant qu'ils ne disparaissent très vite. Autrement dit, il faut quand même que je sois dans une position de volontariste en face de mes rêves. Autrement, ils s'évanouissent et je les oublie. Mais comme il y a dans ma vie un certain nombre de rêves absolument récurrents, je dirais récurrents dans le récit, enfin dans une espèce de pseudo-narration, quand on se souvient d'une suite d'images ou d'éléments, et aussi bien dans les images, j'étais obligée de m'arrêter à ces rêves. Alors il y en a un qui est récurrent depuis toujours. Depuis toujours, je ne pourrais pas le faire remonter très loin, mais enfin, disons que ça fait une quarantaine d'années que ce rêve revient. Et il a été important, je vais vous dire après pourquoi. Alors c'est un rêve de quasiment de torture, je ne sais pas ce que c'est parce que c'est pas toujours distinct, mais je sais que je me réveille toujours au moment où quelque chose me rentre dans la peau, au niveau, au-dessus du sein à droite, quelque chose comme ça. Bon, je me mets à hurler par moment
Et
et
c'est
je me
toujours à
réveille.
droite, toujours au même endroit.
Je ne sais pas, je dis là maintenant, j'ai l'impression que c'est toujours à droite, mais en fait, il y a quelque chose qui me traverse la peau à cet endroit, au-dessus des seins, si vous voulez. À droite, à gauche, je crois que c'est toujours à droite, mais je ne sais pas. J'ai l'impression, ça pourrait être à gauche, mais je n'ai pas l'impression que c'est à droite. Et je me réveille et il ne reste quasiment rien de ce qui a suscité cette douleur, sinon que quelqu'un m'a pris la poitrine pour m'agrafer quelque chose. Alors, bon, et puis ce rêve, bon, il m'a arrêté, il est récurrent. J'y attachais pas une grande importance, sinon une attitude un peu naïve, même avec beaucoup de lecture par rapport au rêve, en disant, bon, il y a quelque chose qui me travaille de ce côté-là, mais vous savez, on a autre chose à faire dans la vie, sauf si on se penche vraiment sur ses rêves. Et puis, quand j'ai écrit, je crois que c'est dans Le Cheval blanc de Lénine ou l'Histoire autre. Je ne sais même pas, mais je crois que c'est là, donc assez tôt dans mon trajet d'écriture. Je me suis souvenue, je n'ai pas fait le rapport avec le rêve encore, me suis souvenue d'un épisode de mon enfance. Pendant la guerre, j'étais très très petite, vraiment. Je vais avoir 2 ans et demi, 3 ans, enfin c'est un premier souvenir. Et même, je me demande si c'est même pas un souvenir raconté en dehors de la douleur. C'est le moment où il y a eu le fichier des Juifs en France et où les Juifs étaient convoqués au commissariat pour recevoir les étoiles qu'ils devaient épingler. Mais tout d'un coup, je ne sais plus à quel endroit, si c'est à gauche ou à droite, qu'ils devaient le coudre sur leurs vêtements. Alors, ma mère était là à Paris, dans le quartier de Belleville, et il y avait mon frère et moi, nous étions trois. Mon père était prisonnier de guerre en Allemagne. Et le décret de Pétain sur la distribution des étoiles et l'obligation de se le coudre sur le vêtement, et disait que les enfants devaient le porter, devaient l'apporter, l'étoile, le tissu qui figurait l'étoile, à partir de l'âge de 6 ans. Ben, moi, j'avais pas 6 ans, j'étais un bébé encore, donc c'était pas pour moi. Et donc, la mère a fait la queue, après, elle est arrivée avec ses papiers, et évidemment, on lui en a distribué deux. Et quand on les distribuait au commissariat, ils n'étaient pas cousus. Donc, on vous donnait une petite épingle pour que vous la mettiez sur le manteau, le pull-over, et puis à la maison, l'obligation, il y avait l'obligation de la coudre. Alors, ce qui s'est passé au commissariat, c'est qu'elle me tenait comme ça, sur les bras, le petit bébé. Je vois ce bout de chiffon qu'on distribue, que je trouve très beau, évidemment, comme bébé, qu'on distribue. Et mon frère en a un, et ma mère en a un, et moi, j'en ai pas.
Oh
hurlement dans le commissariat. J'en veux un, j'en veux un. Et bon, ma mère, elle se sentait en danger, elle était pressée, elle a pris une épingle, et elle me l'a épinglée rapidement, puis elle m'a pris un bout de peau avec. Et je me suis mise à hurler, évidemment, j'ai eu très mal. Le souvenir de cette scène, ce n'est pas un vrai souvenir. J'étais trop petite, mais le souvenir de la douleur est là quelque part. Mm-hmm. Là, quelque part, que ma mère m'a raconté après. Bon. Mais de toute façon, c'était là. Bon. Et ce rêve, revenant assez souvent, j'ai écrit cette scène comme ça, mais le rêve était à part.
Mm-hmm.
Et puis évidemment, c'est dans l'analyse que je me mets à raconter ce rêve, et je me mets à dire que j'en ai fait quelque chose dans mon livre, que j'ai échafaudé longuement sur l'identité épinglée, dans tous les sens du terme, et que depuis, j'ai une haine pour les identités qu'on vous assigne, enfin, que vous ne choisissez pas. Et puis, j'entends ma psy qui rit derrière moi et qui me dit « Mais vous n'y êtes pas du tout. » C'est une des rares fois où elle a pris longuement la parole, parce que la plupart du temps, elle ne parlait pas. Tout ce que vous avez échafaudé en tant qu'écrivain, en tant qu'intellectuel, c'est bien, mais c'est une rationalisation autour des identités. En fait, quand vous êtes manifesté, vous n'aviez aucune idée de ce qui se passait, ni la guerre, ni le commissaire, ni le commissariat, ni ce que représentait l'étoile. Ce que vous vouliez simplement dire, et ça c'est important pour la psy, c'est « et moi, et moi, et moi, j'en veux ».
Mm-hmm.
Mais ça aurait été de la nourriture, ça aurait été n'importe quoi, que ça aurait été pareil. « Et moi, et moi, et moi ». Alors bon, d'une part, blessure narcissique, parce que « et moi, et moi, et moi » banalisait terriblement le propos, mais en même temps, oui, bien entendu, j'ai pris acte pour le développement de la psy. Mais en tous les cas, tout d'un coup, je lui ai dit « mais cette scène réelle n'est pas simplement une scène réelle. Il se trouve que je rêve périodiquement, une fois par an, par an, c'est quand même beaucoup, de cette espèce de douleur que j'ai. Évidemment, maintenant que je connais la scène, qu'on me l'a racontée 10 000 fois, que j'ai vu des photos de l'époque de la guerre où je suis dans les bras de ma mère comme je l'étais à ce moment, je n'arrive plus, évidemment, à faire la distinction entre la scène du rêve et la scène réelle, il y a peu de chances que je puisse, à l'âge que j'avais, m'en souvenir. Mais effectivement, c'est un rêve extrêmement structurant de rapport, de douleur, guerre, douleur, vie qui s'inaugure sous ce signe et qui, inévitablement, va se retrouver quelque part dans l'écriture, qu'elle soit de type autobiographique ou pas. Alors ça, c'est une scène. Et j'ai un deuxième rêve récurrent, toujours de la guerre, qui est beaucoup plus distinct, parce qu'il est beaucoup plus tardif. C'est à toute fin de la guerre. Donc j'ai presque 5 ans, et donc là, j'ai des vrais souvenirs mais de scènes réelles. Mais le rêve est récurrent, et encore maintenant, je pourrais dire, il y a encore 3 semaines, je l'ai fait. C'est évidemment des bottes. L'uniforme nazi et on vient me chercher. Et on vient me chercher, je me cache. Et la scène, c'est un bruit surtout, un soldat quelque part, et des recoins où je suis tapis. Et puis ça s'arrête là, parce que le rêve s'arrête toujours. Là, je ne suis pas réveillée par une douleur, mais le rêve, où il continue, et je ne sais pas par quoi il continue. Oui, il s'arrête, mais il s'arrête au moment où je suis comme ça, tapis dans l'ombre, et je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, Bon, ce rêve est récurrent. Correspond-il à une scène réelle ou pas? Non, mais 10 000. Alors, 10 000 fois, on s'est caché. 10 000 fois, j'étais dans un recoin. 10 000 fois, on m'a dit, surtout, tu parles pas. Tu n'éternues pas. Tu ne tousses pas. Et cette espèce de terreur que j'avais d'avoir à maîtriser. Et on me disait, tu pleures pas. Je disais, mais si j'ai envie de pleurer, tu... Je me souviens de l'expression de ma mère. Elle dit, tu pleures en dedans. Tu tousses en dedans. Tu éternues en dedans. Et l'exercice qui consistait à tousser en dedans, je vous dis pas. Mais en tous les cas... Il n'y a pas une scène, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une scène réelle d'un petit enfant de 4-5 ans derrière dans un recoin qui se cachera d'un soldat. C'est jamais comme ça que ça s'est passé. Mais le rêve, bon, comme vous le savez, c'est pas le reflet d'une scène réelle, mais elle est l'angoisse de la poursuite, du fait d'être caché, d'être dans l'interdit de parler. Et ça se retrouve évidemment beaucoup dans mon écriture, et en particulier dans l'immense fatigue des pierres, dans le fameux texte Gratok, où je parle d'un jour où avec mon ours, on doit vraiment se cacher, on doit vraiment se taire. Bon, mais voilà, alors ça c'est des rêves récurrents. Bon, des rêves récurrents de traumatismes qui reviennent, qui ont été travaillés dans l'analyse. Bon, je ne peux pas dire que j'ai dépassé tout ça parce qu'ils reviennent, ces rêves. Mais disons qu'il y a un certain travail qui s'est effectué autour d'eux et qui font qu'ils ne me terrifient plus. Je les reconnais maintenant. Quand je me réveille, je me dis, ah ben voilà, ça me reprend.
C'est des rêves qui sont liés à votre toute petite enfance.
Ah, toute petite.
Parce que, je peux le dire, vous êtes née à la fin de 1939.
Décembre
39. Donc, à la fin de la guerre, vous n'avez...
5 ans.
Oui, c'est ça. Donc, se cacher, tout ça, vous avez 2 ou 3 ans, 4 ans, c'est ça?
Absolument.
Et il faut que vous vous taisiez alors que vous... C'est assez...
Pour un enfant,
c'est terrible,
c'est terrifiant. Hein. Apprendre le silence.
À ne pas bouger aussi.
À ne pas bouger. Et surtout... apprendre à parler français. Parce que, évidemment, ma langue maternelle n'est pas le français du tout, c'est le yiddish. Mais c'est la langue interdite. Alors, vous faites arrêter tout de suite. Et ma nourrice était française et parlait français. Et donc, en tant que bébé, je devais baragouiner des deux côtés, si on veut, avant de parler vraiment. Et l'interdit sur le yiddish était total, alors que c'était la communication avec ma mère. Et le français, c'était au contraire la langue de la nourrice. On allait dehors, au but de Chaumont, on allait au Folies Belleville voir Maurice Chevalier. Le français, c'est la langue de la lumière, la langue des lambris, la langue dans laquelle on pouvait vivre. Mais il y avait cette dichotomie pour un petit enfant, c'est assez difficile à maîtriser, l'interdit d'un côté, mais l'interdit lié à la mère, et au contraire la nourrice qui fricotait plus ou moins avec les Allemands, mais qui elle parlait
français. Qui avait une vie aussi, parce que chez vous, il n'y avait pas beaucoup de vie. Comment vous l'appelez dans Gratok? C'est un garage?
C'est l'endroit où on s'est réfugié, c'est l'espèce d'appentis dans un garage, un terrain vague. Et où il ne fallait pas faire de lumière, on était sur une espèce de matelas avec une couverture et c'était tout. Et c'est là qu'il ne fallait pas tousser. Il ne fallait pas que des voisins puissent se rendre compte qu'il y avait des gens là-dedans. On était relativement nombreux. C'était la fin de la guerre, heureusement, parce que je crois qu'ils n'auraient même pas accepté ma mère autrement avec un petit enfant. On se met à hurler.
Oui, parce que c'était trop dangereux.
Bon, et là, à l'âge que j'avais, ma mère leur avait dit non, elle est capable de se taire. Bon, c'est une responsabilité énorme.
Oui, tout à fait.
Bon, dans tous les cas, ça nous éloigne un peu du rêve, mais enfin, c'est lié à la petite enfance. Je suis tout à fait d'accord.
Oui, mais c'est... D'où le fait aussi que ce soit des rêves récurrents, c'est-à-dire c'est des rêves qui sont... C'est très difficile.
Toujours les mêmes.
C'est ça, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune imagination et j'ai cette douleur quand je me réveille, où je suis tapie quelque part. Et bon, maintenant, j'apprends à dire, bon, ça me revisite.
Oui.
Ça me revisite, mais je suis quand même à distance.
Oui,
J'ai dû être terrifiée les premières fois où j'ai fait ce rêve, mais je n'ai pas souvenir de ces premières fois où j'ai fait ce rêve. Autrement, mes rêves, ils sont comme tout le monde, ils sont bizarres, une espèce de collage d'images, avec comme souvent des restes d'urnes, des visages mis pour d'autres. Quand j'essaie, je me faisais toujours bombardée. En fait, ma psy me disait toujours de ne pas trop essayer de me mettre à sa place, d'une certaine façon. Parce que j'essayais de les analyser en disant, mais ce visage, il est sans doute mis pour quelqu'un d'autre. Et j'essayais de détailler mes restes diurnes. Alors, elle, ce qu'elle voulait, c'est que je lui raconte. Puis que je lui laisse le soin de voir si... bon, mes associations pouvaient être intéressantes, mais enfin, il ne fallait pas que j'essaie trop d'analyser ses rêves parce que je les annihilais. Mm-hmm. Et je me donnais un pouvoir de contrôle que je n'avais pas, en fait.
Ils sont importants, ces rêves que vous faites pour votre écriture?
Alors, ça dépend. En règle générale, je dirais non.
Non?
Mm-hmm. En règle générale, je dirais non. Sauf que comme je note tout, et que j'ai un carnet dans lequel sur lequel je fais mon journal, qui est fait de tout et de n'importe quoi. Ça peut être une idée fulgurante dans un carrefour. Alors, je tiens mon carnet de façon maladroite et mon écriture est évidemment maladroite. Ça peut être au contraire attablé avec une belle écriture où je dis ce que j'ai fait dans la journée, etc. Et là, il peut y avoir un détail d'un rêve. Je note. Hein, j'ai fait tel rêve hier. Je me souviens que de telle image. C'était un coucher de soleil. Alors, ce coucher de soleil, c'est sans doute le Pacifique parce que j'étais à Santa Monica hier soir. Là, je me permets dans ce journal de développer parce que je note pas vraiment le rêve, mais il y a une image ou deux. Je note. Bon, et puis j'oublie. Je n'en fais rien. Mais quand je me mets à écrire, je rouvre tous ces carnets. Je les étale. Et là, je tombe sur une image sur le Pacifique. Alors, de deux choses l'une. Ou ça me revient. Je me dis, oui, j'aurais dû noter à côté parce que c'est un... Et je brode autour. Ou ça ne me revient pas, mais l'image me paraît extraordinaire. Je vais travailler avec cette image. Alors, pour vous répondre, c'est un petit peu bancal parce qu'il ne s'agit pas d'un vrai matériel. Le rêve. Un carnet où il y aurait les rêves. Il y a des gens qui travaillent comme ça. Et à partir desquels je me mettrai à écrire, non, je me mets à écrire. Et à ce propos, traversant mes carnets, je vais rencontrer des rêves. Mais vous voyez, c'est pas la même démarche que des gens. Enfin, il y en a que je connais, ça donne pas toujours de bons résultats, mais c'est leur démarche. Ils ont un carnet spécial où ils notent leurs rêves et ils peuvent décider d'écrire à partir de là. C'est pas du tout mon
Alors
cas.
Que vous, c'est plutôt dans un bric-à-brac d'idées, c'est-à-dire, je vais pas...
Tout à fait, c'est juste une espèce de grand bric-à-brac de tout. Il peut y avoir une référence, parce que j'ai vu un livre et je veux absolument noter sa référence. Je note tout là-dessus, pour être sûr que ça ne va pas s'égarer, qu'il n'y a pas 10 000 endroits. Et après, j'ouvre ces carnets, je les traverse, et je me dis, tiens, là, il y avait une idée, là, il y avait une image de rêve. Là, il y avait
Ça peut se mélanger.
Et à ce moment-là, ça prend forme, en fonction de ce que j'ai dans la tête à ce moment-là. Je me dis, voilà, ce coucher de soleil, j'en ai vu 10 000. Alors, les couchers de soleil, j'essaye de voir dans mes carnets où sont les couchers de soleil. Par exemple, une espèce de traversée paradigmatique, et il peut y avoir des images de rêve, des cartes postales, enfin, tout un ensemble de choses qui va faire jaillir une idée, ou une ligne, ou une phrase, quelque chose.
Et quand vous étiez en analyse, c'était la même chose ou vous
avez... Non. Quand j'étais en analyse, j'avais une position volontariste par rapport au rêve, parce qu'elle m'avait dit que ça pouvait être important, tout en sachant que les gens, un peu tête de linotte, ne retiennent pas leurs rêves. Alors j'avais ce petit carnet, un autre carnet, qui n'était pas au fond de mon sac, où il faut 20 minutes pour le trouver, et pendant ce temps-là, on a oublié ses rêves. Quasiment sur la table de nuit avec un stylo bille à côté ou quasiment sous l'oreiller. Et dès que je me réveillais, je me précipitais sur ce carnet. Alors parfois, rien du tout. J'avais déjà oublié au moment où je me réveillais. Et parfois, au contraire, il y avait une élaboration assez longue. En tous les cas, une ébauche de récit possible avec plusieurs éléments. Et les rêves, je les travaillais un peu à ce moment-là. Bon, je n'osais pas trop lui dire à ma psy que je les avais un peu travaillés parce que je me faisais engueuler. Mais disons que j'avais des éléments, j'essayais de repérer des restes d'urnes et de voir ce que ça pouvait bien vouloir dire. C'est une époque où j'avais beaucoup de rêves par rapport à ma fille, par exemple. Alors, elle était gentille, elle était méchante, on s'entendait bien, on ne s'entendait pas. Elle faisait ceci, elle faisait cela, mais elle revenait souvent. Alors je me demandais ce que ça venait faire et pourquoi à ce moment-là. Non, quand j'étais en analyse, enfin les premières années.
Oui.
Après, c'est mis à disparaître aussi. Mais les premières années, dans les premières années, on est très bon élève en analyse. Hein, on y croit dur comme fer. Et donc, j'avais à la fois ce matériau des rêves. Je suis retournée et à l'endroit où je suis née, à l'endroit où qui était déjà à moitié démoli, où j'ai vécu la petite enfance, on s'est caché pendant la guerre. J'essayais de repérer les endroits. Je suis allée avec un cousin qui prenait des photos. J'ai fait parler mon frère qui a 10 ans de plus que moi et qui donc lui a vécu la guerre avec beaucoup plus de conscience que moi pour lui poser un certain nombre de questions. Et donc un certain nombre de souvenirs très vagues ont été ravivés grâce à lui. Donc toutes sortes de... C'est presque un full-time job d'être en analyse les premières années pour ça. Puis après, bon, après il y a le train-train. On a compris qu'il fallait parler associé, mais pas trop... se substituer au psy, donc on fait autre chose et les rêves deviennent, je dirais, secondaires, sauf s'il y en a un qui s'impose et s'il y en a un qui s'impose le jour d'une séance d'analyse. Alors là, je dirais, la séance est pleine du rêve, il n'y a que ça. Bon. Mais en dehors de ça, je ne me souviens pas d'avoir fait des rêves qui aient occupé énormément de séances d'analyse.
Et qu'est-ce qu'il est arrivé des carnets, de vos carnets bric-à-brac, là, comme je viens d'appeler, pendant que vous aviez vos carnets de rêve? Est-ce qu'ils continuaient ceux-là aussi? Vous aviez deux. Non, c'est, tout était dans le carnet de rêve.
Oui, oui, non. Du temps où j'avais le carnet, j'avais mal compris votre question, mais du temps où j'avais le carnet de rêve, j'en avais deux.
Ah, c'est ça.
J'avais le carnet de rêve pour le matin, mais pour les 10 secondes du réveil, pour ne pas perdre le rêve.
Et le reste,
et j'avais toujours mon carnet où je notais ma journée, enfin, n'importe quoi, mes idées.
Donc vous aviez un carnet de plus, c'est ça?
J'avais un carnet de plus, c'était beaucoup plus mince d'ailleurs, le carnet des rêves. Bon. Et puis après, quand j'ai cessé de noter mes rêves au réveil, j'ai gardé le rêve, le carnet unique, dans lequel de temps en temps, je consigne une image de rêve qui m'est restée. Mais j'ai du mal. Hein. Ça fuit.
Même maintenant encore.
Oh oui, je les retiens mal, mes rêves. Je ne peux pas vous dire de quoi j'ai rêvé hier soir. Si j'ai rêvé.
On parle en ce moment de l'écriture et du rêve, et je me demande un petit peu le rapport entre le rêve et la parole. Est-ce que vous racontez vos rêves? Est-ce que... Oui, vous la racontez à la psychanalyse.
Oui.
Mais est-ce que...
Est-ce que je raconte dans l'écriture ou à quelqu'un?
À quelqu'un.
Pour autant que j'ai un interlocuteur, oui. Mais en général, les gens, ça les intéresse très
c'est
peu.
C'est ça. Hein.
Mais bon, ça donnerait la forme. Oh, tu sais, c'est terrible, ce matin, je rêvais d'un truc, pas possible. Et à ce moment-là, je vais intéresser la personne pour la faire rentrer dans mon rêve. Et elle-même aura... c'est sans doute que quelque chose comme ça. Mais ça ne va pas durer, les gens ne s'intéressent pas du tout à vos rêves. Bon. La psy, vous la payez pour ça. Mais je veux dire, de temps à autre, une amie intime, quelqu'un qui a vraiment un intérêt à vous écouter. Mais autrement, non, bien sûr que non. C'est difficile à raconter.
Oui, et le récit de rêve, de toute façon, il est peut-être pas si intéressant que ça, s'il n'y a pas un peu de fiction dedans, si on ne le reprend pas. C'est ainsi.
Ah bah oui, mais alors là, on est dans un travail.
Oui, c'est ça.
Parce que dans le fond, ce qui reste, c'est deux, trois images et puis un fil qui les relie.
C'est ça.
Et à partir du moment où on veut vraiment le relier, le fil, on est déjà dans la narration.
C'est ça.
Et là, on est déjà dans ce qu'on rajoute, dans les possibles bifurcations d'interprétation. Et alors là, il peut prendre corps, il peut devenir intéressant, bien entendu. Il pourrait même être le démarrage d'une nouvelle, bien entendu. Mais disons, au niveau de...
Alors aujourd'hui, à l'émission Rêver pour moi, je vais recevoir Régine Robin. Régine Robin, je suis très contente de vous avoir ici parce que vous êtes une romancière, une essayiste très importante pour moi. Et votre rapport au rêve, me semble-t-il, est particulièrement intéressant. Il y en a certains échos parfois même dans vos œuvres. Alors je vais vous poser une question très simple. Quel est votre rapport au rêve en général?
Alors en général, d'abord, je suis ravie d'être avec vous ici. Et mon rapport au rêve en général, je crois qu'il est un peu celui de tout le monde au départ, à savoir que j'ai le plus grand mal à retenir mes rêves et que durant le début d'une longue psychanalyse, J'étais avec un petit carnet quasiment sous l'oreiller et j'essayais de noter en tous les cas les dernières images du rêve ou des éléments de récit avant qu'ils ne disparaissent très vite. Autrement dit, il faut quand même que je sois dans une position de volontariste en face de mes rêves. Autrement, ils s'évanouissent et je les oublie. Mais comme il y a dans ma vie un certain nombre de rêves absolument récurrents, je dirais récurrents dans le récit, enfin dans une espèce de pseudo-narration, hein, quand on se souvient d'une suite d'images ou d'éléments, et aussi bien dans les images, j'étais obligée de m'arrêter à ces rêves. Alors il y en a un qui est récurrent depuis toujours. Je ne pourrais pas le faire remonter très loin, mais enfin, disons que ça fait une quarantaine d'années que ce rêve revient. Et il a été important, je vais vous dire après pourquoi. Alors c'est un rêve de quasiment de torture, je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est pas toujours distinct. Mais je sais que je me réveille toujours au moment où quelque chose me rentre dans la peau, au niveau, au-dessus du sein à droite, quelque chose comme ça. Bon, je me mets à hurler par moment et je me réveille.
C'est toujours même
Je ne sais pas, je dis là maintenant, j'ai l'impression que c'est toujours à droite. Mais en fait, il y a quelque chose qui me traverse la peau à cet endroit, alors, au-dessus des seins, si vous voulez. À droite, à gauche, je crois que c'est toujours à droite, mais je ne sais pas. J'ai l'impression, ça pourrait être à gauche, mais j'ai l'impression que c'est à droite. Et je me réveille et il ne reste quasiment rien de ce qui a suscité cette douleur, sinon que quelqu'un m'a pris la poitrine pour m'agrafer quelque chose. Alors, bon, et puis ce rêve, bon, il m'a arrêté, il est récurrent. J'y attachais pas une grande importance, sinon